Eh bien, bonjour à tous. Donc, une évolution des consciences selon la psychologie ésotérique. Alors, en fait, on se pose beaucoup de questions sur le monde actuel, sur où va le monde. On voit que tout n'est peut-être pas rose, qu'il y a beaucoup d'individualité, qu'on dit que le monde court un petit peu à sa catastrophe, que beaucoup de choses sont détruites, que les relations entre les personnes se détruisent ou se détériorent, qu'on est un peu dans du chacun pour soi. D'autre part, on voit qu'il y a quand même des initiatives qui sont prises pour retrouver autre chose, comme par exemple ce salon, qu'il y a d'autres liens qui se tissent. Mais il y en a qui se disent, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on va réussir à reconstruire quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas tout en train de se détériorer, puis l'humanité, elle a peut-être plus rien à faire ici sur Terre? Et il y en a qui se disent, mais c'était mieux avant, c'est-à-dire que dans les sociétés archaïques, on avait quelque chose, on avait des valeurs, on avait un noyau familial, un noyau autour du village, chacun avait sa place, il n'y avait pas de chômage, et que peut-être la solution, c'est de revenir à quelque chose, à des formes un peu plus archaïques, ou en tout cas de ce qu'il y avait avant, pour retrouver une sorte d'humanité, retrouver enfin notre propre humanité. D'autres, au contraire, se disent, mais de toute manière, il faut avancer, il faut trouver les solutions dans le progrès technique, notamment, par exemple, avec des robots, etc., et on réussira à redonner un peu de la place pour chacun et avoir un monde meilleur. Peut-être qu'il y a aussi d'autres alternatives, c'est-à-dire que la solution n'est peut-être pas dans le progrès, ni dans le retour en arrière, mais peut-être de trouver quelque chose d'autre qui est peut-être plus en rapport avec notre être intérieur. Et c'est ce que propose, en tout cas, c'est une piste que propose d'explorer la psychologie ésotérique. Alors, une évolution des consciences selon la psychologie ésotérique. Alors, peut-être qu'on va commencer aussi, avant d'aller un petit peu plus loin, par définir certains termes. Psychologie, généralement, la plupart des gens connaissent, parce que c'est un petit peu connu, un peu plus à la mode. La psychologie, ça commence depuis très longtemps. Ça commence, on peut dire, presque depuis Platon, où il y avait l'étude de la psyché, c'est-à-dire du souffle, de l'esprit. Et puis, pendant des millénaires, c'est arrivé quasiment jusqu'à nous, où c'est au début à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, notamment, ça a été remis un peu au goût du jour, la psychologie, avec notamment donc, il y avait Galton en Angleterre, et puis Binet aussi, une autre figure aussi importante. Qui ont commencé, ces gens-là ont pris des études dites de psychologie en faisant des comparatifs, notamment des comparatifs, Galton faisait des comparatifs entre l'intelligence, en tout cas le comportement d'un individu, et le physique, donc qui était la base de l'eugénisme. Donc par exemple, certains traits morphologiques pouvaient être mis en relation avec certains traits psychologiques. Binet notamment, lui, il a fait d'autres travaux dans ce sens, pareil, pour connaître comment mesurer l'intelligence d'une personne. Alors on s'aperçoit que là, cette psychologie-là était très axée sur les comportements, ou en tout cas sur des faits qui étaient tout à fait concrets. Dans le même temps, il y a eu tout un autre courant, que vous connaissez bien, qui est le courant freudien, à partir de Freud, qui est le courant de la psychanalyse, et qui a été un autre type de psychologie, qui a été aussi décrié parce que moins scientifique, moins formel, en tout cas avec des choses moins cadrées. Et ce courant psychanalytique se proposait d'aller écouter un petit peu l'intériorité, en tout cas de la personne qui est en face, avec plein de liens entre le passe-temps et puis le thérapeute à l'époque. Et en tout cas, il y avait une notion un peu plus d'écoute, qui était beaucoup moins formalisée sur des critères extérieurs, comme la psychologie qui commençait à naître, notamment de Galton et Binet. Freud a eu de nombreux disciples, et notamment aussi deux disciples un peu plus importants, notamment Jung et puis Salvioli, en Italie. Et eux se sont dit, mais pourquoi s'arrêter au moi? Parce que Freud s'intéressait notamment à ce qui tournait autour de moi, ce qui tournait autour des émotions, autour des pulsions, c'était quelque chose de très individuel. Il disait, mais peut-être qu'il y avait quelque chose au-dessus du moi, c'est-à-dire qu'on pouvait peut-être avoir une conscience, ou une âme, ou quelque chose, en tout cas, Jung appelait ça un soi, qui était en dehors du moi et qui pouvait peut-être être ce qu'on est véritablement. Et la psychologie s'est un petit peu arrêtée là. C'est-à-dire que actuellement Jung, ou en tout cas ces personnes-là, sont pas très reconnues, en tout cas dans le domaine de la psychologie. Et c'est là où on en vient à l'ésotérisme. Alors l'ésotérisme, faut pas le voir comme des pratiques secrètes, occultes, qu'on connaît pas, qui sont absolument bizarres. L'ésotérisme, ça veut simplement dire tourner vers l'intérieur. Ça vient du grec « eso », à l'opposé de exotérique, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Les pratiques exotériques, c'est la science concrète telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des faits extérieurs qu'on peut mesurer, qu'on peut observer et qu'on peut reproduire. Toute la science ésotérique, en particulier la psychologie ésotérique, ça va concerner l'étude donc de la psyché, ou en tout cas les toucher, les énergies qu'on a à l'intérieur de nous, les énergies internes, mais cette fois par l'intérieur, c'est-à-dire par un toucher personnel, un toucher subtil de qui on est au niveau du moi, qui on est en termes de personnalité, peut-être qui on est en termes d'âme, de conscience, et essayer de remonter comme ça à qui on est vraiment, quelle est notre énergie fondamentale. Et c'est là toute une autre voie d'exploration qui demande un peu plus de temps, qui est beaucoup moins factuelle, parce qu'on demande un peu plus de... Ça demande un peu plus de temps, un peu plus de patience aussi pour se découvrir, parce qu'on n'a pas d'effet extérieur qu'on peut mesurer en disant je fais un test et ça y est, je suis de telle personnalité. Non, là, ça va demander de comprendre vraiment qui on est, de sentir et ensuite de le traduire en mots. Donc une voie qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus difficile, mais qui est beaucoup plus dans la vérité si on veut. Donc aussi, on peut voir que toutes les sciences exotériques actuelles, c'est même jusqu'actuellement, on arrive jusqu'aux neurosciences, par exemple, où les neurosciences, c'est simple, une émotion, notre personnalité ou qui on est vraiment, c'est simplement un assemblage de neurones et des interactions entre les neurones. Voilà. Et donc, ce qui fait notre émotion, c'est simplement des neurones. Ce qui est d'un point de vue qui n'est pas faux, mais qui oublie toute la partie supérieure et d'énergie plus subtile qu'on peut véritablement aller sentir de l'intérieur. Voilà. Alors, voilà pour la partie psychologie ésotérique. Non, il s'agit peut-être de voir ce que c'est que la conscience. Dans certains ouvrages, il est quand même dit, on peut le sentir aussi par l'intérieur, que la conscience va être un rapport entre l'âme et le corps. C'est-à-dire que la conscience, ça va être une âme qui va être en rapport avec une forme, avec un corps, et ce rapport entre âme et corps va créer un point de conscience. Alors, il peut y avoir des points de conscience plus bas, des points de conscience plus haut, il y a toute une échelle de conscience différente et ça va créer plein d'individus différents. On va prendre un exemple pour un peu plus concret, qui est une analogie, qui ne va pas vraiment être en rapport avec ça. Alors, je n'ai pas trouvé un exemple très concluant qui puisse parler à tout le monde, alors vous allez me dire si ça vous parle ou pas. Imaginez que vous avez oublié vos clés. Alors, je sais que ça arrive à personne, voilà, mais faites un effort d'imagination le jour où vous avez perdu vos clés. 10 minutes avant de perdre vos clés. Tout va bien, vous êtes dans la vie, vous pensez à votre travail, vous pensez à la sortie que vous allez faire. Vous êtes heureux avec vos enfants, vos amis, vous êtes, on peut dire d'une certaine manière, en pleine conscience dans la vie. Vous vous rendez compte que vous perdez les clés. Catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, votre champ de conscience, on appelle ça une fenêtre attentionnelle, mais en tout cas, votre attention s'est réduite uniquement sur la clé. Comment faire? Comment retrouver les clés? Et tous les autres problèmes sont annexes. C'est-à-dire le seul problème qui compte, c'est retrouver ses clés. Après, bien sûr, vous avez des gens autour de vous qui vont vous dire « Mais ne t'inquiète pas, on les retrouvera. Écoute l'univers et puis tu vas les retrouver. Si tu écoutes bien l'univers, tu te poses dans ton coin, va méditer 5 minutes et tu vas voir qu'elles vont t'apparaître. » Alors généralement, on n'est pas du tout dans cette énergie puisqu'on vient de perdre les clés. On dit « Non, mais tais-toi, moi, c'est mon problème, c'est mes clés et c'est important parce qu'en plus j'ai rendez-vous dans 10 minutes. » Et les autres à côté, mais t'inquiète pas, peut-être qu'il y a la voisine, ton voisin qui peut t'amener, qui peut te dépanner ou on peut trouver d'autres solutions. Et c'est très très difficile d'aller imaginer qu'il y ait d'autres possibilités puisque notre problème, on est focalisé sur les clés. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques entre âme et corps avec cette histoire de clés, mais on peut faire une analogie. On peut imaginer qu'au niveau de l'âme, quand on est dans l'âme, on est en pleine conscience. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce que vous aviez avant, quand vous avez perdu les clés, vous pensiez à tout, vous étiez dans la vie, tout va bien. Au moment où vous avez perdu les clés, l'état de conscience descend au niveau de la problématique, au niveau des clés. C'est-à-dire que tout ce qui concerne autre chose que ce problème est évacué et seulement le problème important, c'est comment retrouver les clés. Et là, on s'aperçoit que donc c'est là où l'analogie fonctionne, c'est qu'une âme, quand elle va s'incarner dans un corps, elle va descendre comme ça et prendre possession du corps, et comme elle va être heurtée à la matière et à la forme, elle va se concentrer, se condenser dans le corps, et cette forme va être le problème de l'âme, va être le nœud de l'âme. Et quand elle commence comme ça à s'incarner dans l'âme, les seules choses qui comptent, ça va être bien sûr les questions relatives à la forme. Comme tout à l'heure avec l'histoire des clés, les seules choses qui comptent, c'est la clé, c'est le petit problème qui va compter. Après, bien sûr, petit à petit, l'âme va évoluer, va reprendre, va repasser par le milieu, et puis va remonter petit à petit, c'est-à-dire qu'elle va réussir à se détacher, à prendre de la distance avec son problème de corps. C'est-à-dire que, dans l'exemple des clés, quand quelqu'un vous parle, mais essaye de penser à la solution de ta voisine, ou pose-toi 5 minutes et puis repense à ta solution de où est-ce que tu as laissé les clés la dernière fois. Donc petit à petit, l'âme va essayer de reprendre un petit peu de distance. Mais vous voyez bien que ce n'est pas évident de reprendre la distance. Ça veut dire commencer à avoir une réflexivité sur soi et éventuellement se remettre en question, se dire où est-ce que j'ai mis les clés, qu'est-ce que j'ai pu faire. Donc il faut commencer à se poser, à prendre le temps de réfléchir sur soi, de réfléchir aussi sur la situation. Et vous voyez que c'est très très difficile, et c'est bien pour ça que là, souvent on envoie balader les personnes qui nous donnent de bons conseils. Et donc c'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble un peu plus vaste. Et donc pour cette histoire d'âme et de corps, ça va être très difficile aussi pour l'âme de commencer à se détacher du corps, c'est-à-dire pas se détacher, mais en tout cas se prendre de la distance par rapport à la forme, et commencer à penser à autre chose ou à être en conscience avec d'autres choses. Alors ça, on peut le voir en mettant le temps. C'est-à-dire que dans une vie, donc la vie qui s'écoule, on a le temps en bas, on a le rapport à la conscience, donc une conscience plus ou moins formelle, plus ou moins dans le corps, ou plus ou moins en rapport connecté avec l'âme. Et on a ce qu'on appelle une évolution de cette conscience, de la naissance à la mort. On va faire un petit peu d'histoire. Tout d'abord, il y a un bébé qui naît, il est dans l'unité totale. Alors, c'est pas bien vrai, il y a eu des contre-exemples au niveau de certaines recherches en psychologie. On va prendre cette hypothèse-là parce qu'elle est juste aussi à certains égards. Un bébé quand il naît, on peut dire qu'il est dans une pleine conscience, une pleine fusion ou confusion avec le milieu où il est né, on va dire avec la mère, mais c'est dans l'environnement en général. Il ne se reconnaît pas vraiment qui il est, il connaît pas forcément les limites de son corps, et ça va être toute la problématique du développement de l'enfant. C'est-à-dire comment accepter les limites d'un corps, accepter la limite de mes émotions, accepter la limite de mes pensées, et comment me situer en tant qu'individu dans ce foyer familial. Donc ça, c'est toute l'évolution de l'enfant. Avant d'en arriver à une individualisation complète, l'enfant passe par toute une période de dépendance. Un enfant, entre 2 ans jusqu'à quasiment presque 20 ans, voire plus pour certaines personnes, il y a toujours une forme de dépendance vis-à-vis de ses parents. Vis-à-vis des parents, même donc financièrement par exemple, où il est toujours attaché à ce que ses parents peuvent penser. Adolescent, il va s'attacher à un groupe, il va penser comme les nouveaux groupes, comme les groupes auxquels il adhère, où il va adhérer à certaines idéologies religieuses, politiques, ou à certains groupes de musique, etc. Il va penser comme. Petit à petit, l'enfant va se détacher, il va commencer aussi à réfléchir, il y a le mental qui va se développer, et peu à peu, la personne entre dans une conscience plus individuelle, on va dire, c'est l'âge adulte. Alors cette conscience individuelle, elle est intéressante, puisque le mental commence à se développer, commence à avoir une réflexivité sur lui-même, cette personne commence à réfléchir sur soi. Et au fur et à mesure que la personne commence à réfléchir sur soi, elle se positionne aussi en tant que sujet, c'est-à-dire en tant que moi-je. Et donc cette conscience individuelle, c'est une conscience où chacun fait un peu ce qu'il veut en fonction de ce que lui y pense et de ce qu'il a envie. Donc on est vraiment dans l'ère du moi-je et du moi-j'ai aussi. Donc moi j'ai une maison, j'ai une piscine, j'ai un compagnon, j'ai une compagne, des enfants. C'est aussi une période qui est la plus créative. C'est-à-dire que la personne, elle a le pouvoir d'avoir, mais elle a le pouvoir aussi de créer. C'est-à-dire qu'elle est en possibilité de créer, elle est créatrice sur tous les plans, émotionnel et physique aussi, et mental aussi avec des idées. Et comme elle est en capacité de créer, elle est en capacité de ressentir ses émotions, elle est aussi en capacité de faire tout ce qu'elle veut en fonction d'elle-même. C'est-à-dire, j'ai envie de quelque chose, simplement je le crée, je me l'achète. Et donc on a un petit peu la société qu'on a actuellement, c'est-à-dire où chacun a son propre plan, sa propre direction, et fait un petit peu ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment changer un peu cette société? Il faut voir qu'il y a une suite quand même à cette histoire, que de la naissance à la mort, tout n'est pas fini. Il y a aussi tout le retour. On était là dans ce qu'on appelle l'involution, c'est-à-dire toute la période qui va de la naissance jusqu'à la conscience, toute la période qui va faire en sorte que l'individu, que la personne s'individualise et devienne une âme dans un corps, et que la conscience se confonde quasiment avec la forme. C'est-à-dire qu'il n'y a que la forme qui compte, par contre l'âme n'existe pas. Aller demander généralement à ces personnes qui sont bien individualisées si elles pensent que Dieu existe, s'il y a des interrelations avec les autres, généralement ils vont dire « Non mais de toute façon après la mort il n'y a plus rien, c'est fini, et puis il n'y a que moi qui existe et ma petite vie. » Alors généralement là se pose le problème, mais qu'est-ce que je fais? Je peux tout avoir, je peux tout faire, il n'y aurait peut-être pas quelque chose d'autre. Et généralement le premier mouvement qu'il y a après ça, c'est de se dire « Mais peut-être ce que je peux améliorer, ce que je peux changer, c'est mon bien-être intérieur. » Et généralement on va commencer à s'inscrire à des clubs de yoga, à faire de la sophrologie, aller chez une réflexologue plantaire, à commencer un petit peu à s'intéresser à la spiritualité, au coaching, au développement personnel ou à des choses comme ça. Peut-être qu'on peut voir aussi certains types de nourriture, commencer à manger bio, parce que bio c'est bien pour mon corps. Et donc on va commencer à travailler sur la qualité, c'est-à-dire plus sur la quantité d'avoir, mais sur la qualité. Alors pour l'instant c'est une qualité tout à fait individuelle, mais il faut aussi en passer par là. Et donc ce travail de la qualité va amener petit à petit à un type de conscience qui est en rapport avec l'inter-individualité. C'est-à-dire que la personne va commencer à raisonner avec les autres, se dire « mais ok, j'ai travaillé sur moi, j'ai une certaine qualité de vie, je commence à mieux m'écouter, à mieux me comprendre, et je commence aussi à m'ouvrir un petit peu aux autres. » Et généralement, on peut dire que cette crise-là intervient autour de la quarantaine, on va dire. C'est-à-dire que c'est là où l'âme va se dire « Mais ok, tu as bien été jusqu'à présent dans la forme, dans ton corps, tu as bien vécu dans ta vie, mais peut-être faudrait penser à quelque chose de plus éveillé, un état de conscience un peu plus éveillé. » Et donc toute cette étape d'inter-individualité va commencer à mettre les gens en relation, des gens qui ont un pouvoir créateur, qui ont un pouvoir sur Terre, une individualité forte, mais qui vont se dire « Mais ce pouvoir-là qu'on a créé, qu'on sait faire, tout ce qu'on sait faire dans la vie, on va le mettre au service de personnes, voilà, et de l'ensemble. » Et c'est pour ça qu'on va venir jusqu'à la conscience d'ensemble, c'est-à-dire, alors pour l'instant, pour nous, c'est totalement une utopie, on ne peut même pas avoir une idée de ce que c'est, mais c'est-à-dire que chaque personne ne s'identifie plus à elle-même en tant qu'individu, ne s'identifie plus à un groupe, mais va s'identifier à l'ensemble. On peut dire, pour trouver un peu une image, c'est comme si chacun de nous s'identifiait en tant qu'humain. C'est-à-dire, je suis humain et comment j'agis en tant qu'humain et comment je prends ma place en tant qu'humain. On peut aller même plus loin, c'est-à-dire, moi en tant qu'humain, comment je vais agir en tant que terrien, c'est-à-dire pour l'ensemble des habitants de la planète, qu'ils soient animaux, végétaux ou minéraux. Voilà, et ça bien sûr, ça nous amène jusqu'à la mort. Alors, pas tout le monde passe par ces étapes, tout se fait aussi pas, on n'est pas on va pas tous mourir dans une conscience d'ensemble, c'est simplement des énergies qui vont venir travailler de plus en plus, qui vont affiner ce parcours. Donc ce qui est intéressant dans la psychologie ésotérique et dans cette hypothèse de travail, en tout cas dans cette grille de lecture, d'abord il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. C'est d'abord des énergies qui sont au travail, et ce qui est important dans le travail ésotérique, c'est de se dire « mais en quoi ce schéma me parle, ou en quoi cette évolution me parle, et comment je peux retrouver ça dans la vie ?» et faire la comparaison, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que c'est vrai pour moi ou pas. Une autre question, une autre idée aussi qui est intéressante par rapport à ça, c'est que cette évolution de conscience, de la naissance à la mort, on va travailler dans tout le côté vie, c'est-à-dire le côté formel, c'est-à-dire que ça va être toute la relation de l'âme avec la forme. Mais on peut s'interroger, et ce sera juste une interrogation, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand je suis en pleine conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la forme qui est là, et que devient toute la partie supérieure, toute la partie du soi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il y aura une renaissance ou pas? Mais en tout cas, on peut s'interroger sur ce côté-là. Alors voilà un petit peu un bref exposé d'une des grandes idées de la psychologie ésotérique. En tout cas, c'est une base qui est la base de tout l'ensemble énergétique au niveau de cette psychologie-là. Et comme je disais, donc c'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre, c'est pas quelque chose à apprendre, mais c'est vraiment quelque chose à vivre. Et autre chose aussi, je vous ai fait le schéma pour un individu, pour une personne, mais on peut faire ça aussi, on peut l'appliquer à tout type de vivant, donc en tant qu'individu, mais aussi en tant que groupe. C'est-à-dire qu'en tant que groupe, on passe aussi d'une période d'organisation, d'une unité un peu perdue, d'une période aussi de dépendance, d'une période tout à fait individuelle, et puis on peut remonter aussi, on peut évoluer de l'autre côté. Et donc de ce point de vue, on peut se poser la question, en France par exemple, où en est-on dans ce schéma? Au niveau de l'Europe, où en est-on dans ce schéma? Au niveau d'un groupe, comme n'importe lequel, un groupe de travail, où en est-on aussi dans notre cohésion de groupe? Voilà, donc c'est plus pour émettre quelques questions, donner des petites idées dans une nouvelle approche en tout cas de la psychologie. Je vous remercie.